Aquare Beber, Astrud Gilberto.
Bon, pour vous, Monique.
Merci, merci, merci. Mais c'est tellement beau, on ne se lasse pas.
Ah, absolument, c'est un grand classique, merveilleux.
Oui.
C'est une musique magique. Alors, okay. Je ne sais pas si vous allez parler de magie, mais vous allez parler de nos os qui sont bien vivants.
Oui, oui, je ne pense pas que ce soit de la
non.
magie.
C'est de la science, c'est de la santé.
C'est de la science, oui. Puis il faut en prendre bien soin, nos os. Vous allez comprendre pourquoi encore plus que l'on pensait. Alors, pendant des siècles, on a pensé que le squelette n'avait comme seule fonction de support et de protection de l'organisme. Puis on a découvert qu'il possède des cellules. Donc, non seulement cette structure solide nous protège, mais elle est vivante. Et ça, c'est selon l'immunologue Guillaume Courbon, qui est de l'Université de Saint-Étienne, qui est en France. Depuis une vingtaine d'années, les spécialistes découvrent une nouvelle facette de nos os encore plus vitale. Échafaudage solide, structure cellulaire, oui, mais pas seulement. Nos os participent aussi à des échanges chimiques dans le corps. Alors, ils jouent un rôle actif dans le métabolisme général de notre organisme. La découverte, c'est celle de l'os comme organe sécréteur d'hormones. Alors, que ce soit dans les reins, le foie, le pancréas, les muscles squelettiques, dans le cœur ou même dans le cerveau. Notre squelette participe à la régularisation de fonctions biologiques vitales.
Il sécrète des hormones.
Oui.
Wow!
Ce n'est plus un secret.
Non.
Alors, il influence au plus grand degré la physiologie de l'organisme, plus que n'importe quel autre organe. Ainsi, plus les chercheurs s'approfondissent, plus l'os se révèle dynamique. Il passe sa vie à se remodeler, Hélène. Autoréparateur, capable de modifier sa masse, sa forme et ses propriétés en réponse aux perturbations environnantes.
Alors, Monique, l'expression « les vieux os », là, ça ne tient plus, là.
Ouais,
ça se régénère.
Ça se régénère. Il réagit aussi à des messages hormonaux extérieurs, modulant par conséquent sa croissance, son développement et son équilibre. Alors imaginez, un nouveau-né détruit et recrée à peu près 90% de son squelette la première année de vie. C'est énorme. Et même si ça ralentit à l'âge adulte, ben semble-t-il qu'on remodèle une bonne partie de notre squelette chaque année. Un dynamisme longtemps négligé, orchestré par un type de cellules particuliers nichées à l'intérieur de l'os, on les appelle, ces cellules, les ostéocytes. Alors, ce que nous dit en 2006, en fait, la chercheuse Faye Bonewald, pour bien son nom, qui vient de l'Université d'Indiana School of Medicine, elle repérait le premier composé sécrété par les ostéocytes hors de l'os. Alors, ça s'appelle le facteur de croissance des fibroblastes. On va le surnommer le FGF23, puis c'est pas un avion. Alors, vous vous demandez peut-être, Hélène, comme moi, ce que sont les fibroblastes.
C'est sûr.
En fait, c'est un tissu solide qui protège en fait à la fois les organes et les tissus comme la peau et aussi les tendons.
OK, comme une enveloppe?
Oui, c'est comme une enveloppe, c'est ça. Alors, depuis sa découverte, cette hormone ne cesse de démontrer sa puissance. Elle est cruciale pour le métabolisme minéral. Alors, par exemple, elle contrôle la vitamine D, elle régule le phosphate en permettant son excrétion au niveau des reins. L'hormone étend aussi ses effets à notre métabolisme énergétique. Le contrôle du calcium est primordial dans tous les échanges et mécanismes cellulaires. Quant au phosphore, ben, il fournit l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de nos cellules. Donc, d'où l'importance de la FGF23 qui contrôle tout ça pour que ça se fasse en parfaite harmonie. Alors, on prend conscience que le tissu osseux est un régulateur de la circulation des éléments essentiels pour assurer l'énergie des cellules dans tout l'organisme. Entre autres aussi, les implications de l'hormone FGF23 sont claires sur la santé du cœur et le métabolisme du fer. De plus, les spécialistes se sont aperçus qu'une petite molécule protéique nommée ostéocalcine est aussi capable de se diffuser hors des os, d'atteindre la circulation et d'agir en tant qu'hormone. Ces différentes fonctions, découvertes au cours des 10 dernières années, c'est donc récent, hein,
oui,
sont aussi nombreuses. Elles favorisent la sécrétion d'insuline et elles influent sur le métabolisme du glucose. Des travaux récents, en plus, démontrent même son rôle sur les muscles squelettiques. Chez la souris, l'ostéocalcine est impliquée dans l'endurance musculaire. Et dans les exercices de résistance, elle pourrait jouer un rôle important dans les gains de force musculaire et l'hypertrophie. L'hypertrophie, c'est l'augmentation du volume d'une structure anatomique. On peut faire de la musculation, par exemple, hypertrophique pour augmenter notre masse musculaire. Alors, cette hormone s'avère aussi favoriser la reproduction masculine et la mémoire, la prévention de l'anxiété et de la dépression. Elle serait même nécessaire et suffisante pour déclencher la réaction au stress aigu. Il y a une étude prospective qui est parue en juillet 2024, qui est la première à montrer qu'un faible taux d'ostéocalcine est fortement associé à un large éventail de symptômes et de troubles psychiatriques chez les jeunes. Quand même une découverte importante. On ne connaît pas d'autres hormones humaines qui agissent comme ça, en étant en amont de tant d'autres hormones et en leur disant quoi faire et quand le faire, s'enthousiasme Gérard Carsenti, qui est directeur des travaux fondateurs sur l'ostéocalcine, qui voit dans ses résultats une logique évolutive. Ces fonctions hormonales de l'os seraient, selon M. Carsenti, l'une des clés de l'adaptation des organismes il y a 500 millions d'années lorsqu'ils ont quitté la mer pour gagner la terre. Mais ces résultats doivent être confirmés, bien sûr. À ce jour, il n'y a pas de consensus international quant aux fonctions cognitives et de biologie de la reproduction de l'ostéocalcine.
Il y a un os ici, là.
Il y a un petit os, oui. Alors, pour ceux qui ne travaillent pas eux-mêmes sur l'ostéocalcine comme Gérard Carsenti, ben, la surprise est un peu mêlée de méfiance, c'est un peu légitime, devant une hormone qui fait pas mal de choses. Tant de choses. Reste que les surprises de l'os ne s'arrêtent plus. Il y a une nouvelle hormone, encore une autre, qui s'ajoute à la liste. Celle-ci s'appelle l'hypocaline 2. On pense à un petit câlin, là, je ne sais pas, qui agit directement sur le cerveau et participe à la régulation de l'appétit et du glucose. Démonstration faite cette fois par des études menées chez l'humain, plus seulement auprès des petites souris. Et une analyse combinant génétique, protéines et métabolites dénombre pas moins de 375 candidats potentiels impliqués dans la communication entre l'os et le corps. Alors Hélène, l'os est bien vivant.
Vraiment?
Et puis Linda Fay Bonewald, ben elle s'en réjouit, ça va de soi, mais c'est sûr qu'il y a encore bien des choses à découvrir. Mais je pense qu'on est un petit peu plus connaissant sur la valeur de nos os et des hormones qui sont sécrétées par ces derniers. Il faut donc en prendre soin.
Merci Monique. Monique, on est avec vous pour les brèves. Il y en a plusieurs aujourd'hui signées. Monique, étant donné qu'Yvan n'est pas avec nous, mais peut-être qu'il est à l'écoute, des fleurs pour les abeilles de Montréal.
Bien oui, bon, on a toujours des mauvaises nouvelles. Hein. On le sait, les abeilles sauvages sont en déclin dans le monde, mais semble-t-il qu'il y a un fait encourageant. Il y a une analyse terrain qui a été menée à Montréal par les chercheurs de l'Université Concordia qui montre qu'on peut leur donner un coup de pouce en plantant une grande variété de fleurs. Selon leur étude publiée dans Ecological Applications, les populations d'abeilles vont mieux, en tout cas à Montréal, lorsqu'elles ont accès à une grande diversité dans la taille et dans la forme des corolles. Ça, c'est la partie d'une fleur formée par ses pétales. Alors, pour dresser ce constat, 2000 échantillons ont été récoltés sur 16 sites dans l'île de Montréal. Donc, plantons de belles fleurs et nos abeilles s'en porteront mieux.
Oui, et concentrons-nous aussi sur le mot variété.
Oui, exactement.
On continue avec vous, Monique. Les racines continuent-elles de grandir en hiver?
Qu'en pensez-vous, Hélène?
Je dirais qu'elles sont en dormance.
Ben, en fait,
les eaux, là. Il y a de la vie là-dedans, là.
Il y a de la vie là-dedans. Exactement. Oui. Alors, contrairement à ce que pensaient les botanistes, la croissance souterraine des forêts tempérées ne s'arrêterait jamais.
Ah.
Alors, c'est ce qu'ont constaté des chercheurs européens entre 2018 et 2020 chez des hêtres, des bouleaux, des chênes et des peupliers répartis entre la Norvège, donc quand même un pays nordique, hein, qui ressemble peut-être un peu au nôtre, et l'Espagne. Alors, cette persévérance permettrait d'allouer davantage de ressources au feuillage une fois le printemps revenu, alors suggérant l'existence de réserves insoupçonnées de carbone chez les arbres. Donc, il y en a peut-être qui sont en dormance, mais ça continue à grandir.
Oui, 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 à vivre.
À vivre, et comme les eaux.
Oui, tout à fait. Monique, vous vous êtes intéressée à Pauline Sarrazy. Qui est-elle?
Alors, écoutez, c'est une jeune femme doctorante en études cinématographiques.
Mmh.
Alors, imaginez, elle a remporté le premier prix pour sa thèse portant sur la poésie insoupçonnée des scénarios de films. Elle est étudiante à l'Université de Montréal. Alors, écoutez, c'est une belle histoire. Tout a commencé dans une brocante du sud de la France où elle a trouvé le scénario du film « La leçon de piano ».
Oh, ben c'est un poème en soi, ce film-là.
Ben oui, mais elle a été happée par la poésie qui se dégageait du scénario. Ce n'était pas même pas l'histoire qui la touchait, mais les détails de sa mise en scène. Une lumière n'était plus seulement une lumière, mais le reflet des sentiments du personnage. Chaque indication technique, sonore ou visuelle contenait cette profondeur poétique qui se retrouve d'ailleurs dans le film. Le texte qu'elle avait sous les yeux contredisait alors tout ce qu'elle avait pu lire dans les manuels d'écriture qui considèrent la poésie comme l'ennemi premier du scénariste. Alors, selon ses ouvrages, la dimension expressive, contemplative de la poésie serait incompatible avec le rôle technique et narratif du texte scénaristique. Alors, sa thèse de recherche cherche à mettre en lumière la poésie propre au texte de scénario et à démontrer qu'il constitue un outil de scénarisation novateur et essentiel à la réalisation du film. Et je la cite, « Ainsi, il m'importe d'exposer la richesse de ce texte invisibilisé et d'en encourager la publication, car dans l'ombre des chefs-d'œuvre réalisés, il y a cette écriture discrète qui mérite d'être reconnue, éclairée et célébrée. » Alors, en plus, l'étudiante est tellement heureuse d'avoir remporté ce concours, Hélène, parce que la plupart des thèmes présentés pour ce concours qui est ma thèse en 180 secondes appartenaient aux sciences dures. Elle avait donc une certaine appréciation que son sujet détonne. Elle est fort heureuse qu'il ait trouvé écho auprès d'autres personnes et elle aimerait vraiment que davantage de gens prennent conscience que le scénario peut être lu en tant que tel et qu'il possède une dimension poétique aussi forte que d'autres formes littéraires. Je dois vous dire, Hélène, que je n'ai jamais fait l'achat d'un scénario pour lire un scénario.
Non.
J'ai lu le scénario d'une amie qui en avait écrit un, mais j'aurais jamais pensé acheter, si ça s'achète, de toute façon, je ne sais pas. Et vous avez déjà lu un scénario?
Je lis des pièces de théâtre à l'occasion, Mais scénario, non. J'aimerais ça, par exemple. Je suis curieuse de voir comment on présente la chose.
Exactement. En tout cas, c'est sûr que Pauline Charrazy nous y encourage. Elle représentera l'Université de Montréal à la finale nationale qui se déroulera le 7 mai à l'occasion du 92e congrès de l'ACFAS. On lui souhaite bonne chance. Nous, Hélène, qui sommes des amoureuses de la scène, c'est fort encourageant de voir que, contrairement aux habitudes, c'est vrai que c'est souvent les récits de thèses qui touchent le domaine scientifique fondamental plutôt que, je dirais, la littérature, oui. Comme c'est le cas ici. Alors,
Et le thème, la poésie insoupçonnée des films, ça donne vraiment envie d'en savoir encore plus. Et ça nous donne aussi envie de revoir ce film merveilleux, hein, La leçon de piano de Jane Campion.
Oui.
Monique, on va s'arrêter le temps d'une chanson, puis on vous retrouve pour une capsule linguistique.
Avec plaisir.